Vendredi 29 mars 2019, il est 18h à Niamey. Le journal vous est présenté par Assoumane Hachina. Le ministre nigérien de la Défense, Kalla Muntari, s'est rendu hier à Ndengimi, région de Difa, en soutien aux forces de défense et de sécurité à la suite des attaques de présumés éléments de Boko Haram mardi. Vous l'entendrez dans ce journal. Distribution prochaine de 2000 kits dits de dignité par l'ONG Plan Niger aux jeunes filles rescapées de certains villages à Difa. Des précisions avec le directeur pays de l'ONG dans ce journal. En partie magazine de cette édition, découvrons Matandaga, des femmes menant des activités génératrices de revenus à Arlit, région d'Agadez. Bonsoir et bienvenue à tous. Le ministre nigérien de la Défense était hier sur les lieux des attaques de présumés éléments de Boko Haram à Ndengimi, région de Difa. C'est pour apporter un soutien moral aux forces de défense et de sécurité. Le ministre Kalla Muntari au micro de Haru Amadou. Nous sommes venus vous visiter et vous présenter nos condoléances suite à ce qui s'est passé avant-hier et bien avant. Aussi pour vous encourager dans cette lutte. Surtout cette année, vous arrivez à avoir le dessus sur l'ennemi. Que Dieu continue à vous assister. Vous travaillez pour la nation. C'est un sacrifice pour votre patrie afin de préserver notre souveraineté telle qu'elle est définie dans notre constitution. Le Niger est une république qui vit sous un régime démocratique où chaque citoyen a la liberté de pratiquer la religion de son choix sans nuire aux autres. Ce sont ces valeurs que vous devrez défendre. Pour rappel, le bilan officiel de ces attaques perpétrées dans la nuit du mardi à mercredi fait état de 13 morts, 6 blessés et plus d'une centaine de cases incendiées. 2000 kits dits de dignité seront distribués aux femmes et adolescentes déplacées des villages de Ngangam, Alhaji Menari, Garindogo et autres régions de Difa. Annonce faite par Henri Noël, directeur pays de l'ONG Plan Niger. Cette donation s'inscrit dans le cadre de la prise en charge des personnes déplacées ces derniers jours dans certaines localités de Difa à cause des attaques de Boko Haram. Henri Noël au micro d'Adama Dawaki.
On a participé à une réunion de coordination où les rôles ont été partagés entre différents acteurs. Certains sont en train de faire des distributions de vivres pour la sécurité alimentaire. Certains font des distributions d'eau pour pouvoir avoir l'eau potable à boire. Et certains font des installations provisoires pour l'hébergement. Et sur cette base, on a retenu qu'on allait distribuer des kits de dignité aux jeunes filles, aux adolescentes, pour leur permettre d'avoir un cadre plus adéquat pour supporter ce déplacement. Il y a du matériel de base comme la pâte dentifrice, du savon, des peignes, quelques habits. Pour les filles, il y aura les serviettes hygiéniques. Il y a également des moustiquaires. On attend les chiffres exacts, mais une commande est en cours pour 2000 personnes. Maintenant, en fonction des besoins réels, on va voir s'il faut aller plus. Si la situation perdue et qui ne vont pas se déplacer, on va voir comment faire un programme de rattrapage pour l'éducation. Trouver une équipe d'enseignants qui peut les encadrer et puis acheter des kits scolaires pour ces enfants.
Suite à l'épidémie de méningite qui s'est déclarée au début du mois de mars à Miria, région des Andes, l'ONG Forsani a fait don le 25 mars au district sanitaire de la ville d'un lot de produits pharmaceutiques. Écoutons la responsable du district sanitaire de Miria, Dr Abou Fatimata Zara Lawali, au micro de Rufai Ousmane.
Merci à l'ONG Forsani qui, une fois de plus, a fait ses preuves de bonne collaboration. Je vous rassure que tous ces produits-là seront utilisés, Inch'Allah, pour la gestion des cas et également pour la prévention. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut un stock tampon. Parce que quand une épidémie se déclare, c'est quelque chose qui a besoin de prompte réaction. Donc, d'où l'intérêt d'avoir ce stock tampon-là. Nous sommes encore en accalmie. Ça va, la dernière épidémie a été gérée avec succès.
Au centre hospitalier de Maradi, la grève du syndicat unique de la santé et de l'action sociale serait suivie. Au niveau du laboratoire, par exemple, seuls les techniciens de garde assurent les services minimums. Observant les mots d'ordre du syndicat, Sahirou Abdurrahman, licencié en biologie médicale, refoule tous les patients qui ne sont pas dans un cas d'urgence. Il est au micro de Mohamed Maman.
Nous sommes au nombre de 10. Maintenant, je suis seul aujourd'hui. C'est pour suivre le service minimum qui a été dit dans le préavis de la grève. On ne prend que la goutte épaisse, l'hématocrite et le groupage. C'est ça seulement qu'on considère comme étant les urgences. Parce que quand une personne vient ici anémie, donc on ne sait pas de quoi il s'agit, on peut lui faire la goutte épaisse et l'hématocrite pour vraiment dire si elle est anémie ou pas. Et ensuite le groupage, si la personne a besoin d'être transfusée ou pas. C'est uniquement ce qu'on fait.
Il y a eu du monde ce matin ?
Il y a eu du monde, on les a dit de partir, on est en grève. On ne peut pas travailler, qu'ils repartent et revenir le lundi, Inch'Allah. Et qu'ils soient aussi à l'écoute. Au cas où la grève a été levée, ils peuvent revenir, Inch'Allah.
Les demandes de signatures de pétitions face à des situations jugées critiques ici ou là suscitent des interrogations sur la valeur juridique de la pétition. Pour Mena Boukar-Karté, secrétaire général de l'Association des constitutionnalistes du Niger, la pétition a plutôt un autre poids à prendre en considération. Il est au micro de Habibou Garba.
C'est un mécanisme permettant aux populations de dénoncer une situation. Alors, la valeur n'est pas juridique. Ce n'est pas parce que 10 000 personnes, 20 000 personnes ont signé une pétition pour refuser une situation bien déterminée que cela va ressembler à une jurisprudence. Une pétition qui importe le nombre des gens qui vont la signer et qui importe la catégorie des personnes qui vont la signer, elle n'a pas de valeur juridique. Elle peut revêtir une certaine valeur morale parce que des milliers de citoyens manifestent une sorte de mobilisation à travers une pétition. Ça veut dire que c'est sérieux et les pouvoirs publics doivent y prêter oreille. Elles doivent écouter, elles doivent réfléchir là-dessus. Par respect à cette couche de la population qui est en train d'exprimer un ras-le-bol par ce mécanisme-là vraiment pacifique.
Mettre à la disposition de la Commission nationale des élections professionnelles les fonds nécessaires est la seule condition pour une bonne organisation des élections crédibles. Déclaration du coordonnateur du mois de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, à la sortie d'une rencontre avec le chef du gouvernement mercredi. Chebou Tankari au micro d'Omar Hama.
Pour aller aux élections, il faut réunir les conditions. Entre autres, la distribution des cartes qui doivent se faire un mois avant la date de la tenue des élections prochaines. Mais je dois vous dire que ces cartes n'ont même pas été éditées à plus forte raison. Pensez à leur distribution. Quand le ministre est apparu sur l'écran de la télévision pour ouvrir la campagne électorale. Une semaine avant, nous avons demandé une rencontre avec le Premier ministre. Nous sommes retrouvés. Nous avons parlé de cette question de la faisabilité. Nous n'avons pas demandé un report des élections. Il y a 400 millions à investir. À la date d'hier, le compte de la CONEP était débiteur. Le ministre de Budget a pris l'engagement de faire débloquer 150 millions la semaine prochaine. Quand la CONEP aura cette somme, c'est à ce moment-là qu'elle va proposer un chronogramme d'activités, notamment l'édition des cartes, la distribution, la production de la liste électorale, peut-être la semaine prochaine.
Au Niger, il existe des textes applicables aux animaux errants dans les agglomérations. Dans la ville de Niamey, ces textes souffrent de manquements. Nous sommes en train de voir présentement dans quelles mesures nous allons les rendre opérationnels, nous a déclaré Hassoumi Tijani, directeur de l'environnement et de l'aménagement du paysage de la ville de Niamey.
Dans les quartiers, on voit partout les animaux errer. Déjà, il y a une brigade qui est créée. Malheureusement, elle n'est pas tellement opérationnelle. Mais on est en train de voir dans quelle mesure on va engager un effort global pour que cette brigade soit opérationnelle et l'approche qu'on va utiliser soit étendue au niveau de certains ménages qui sont bien connus, qui font de l'élevage, doivent vraiment se ranger. Les gens doivent se limiter à juste ce qu'ils peuvent entretenir dans leur maison, ne pas laisser les animaux errer dans la rue, puisque ça cause beaucoup de problèmes. Ça expose les citoyens aussi à des accidents.
Est-ce qu'aujourd'hui, dans la ville de Niamey, il y a des fourrières ? Les fourrières sont-elles opérationnelles ?
Les textes existent. C'est l'application de ces textes qui souvent souffrent de manquements. C'est des structures qui existent que nous sommes en train de voir présentement dans quelle mesure les rendre opérationnelles.
Propos recueillis par Gungu Mahamban Dantani. Engagement des ministres à mettre en œuvre des politiques économiques soutenables axées sur la diversification économique et le renforcement de la mobilisation des ressources internes, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce sont là quelques résolutions adoptées par les ministres de la zone France CFA réunies hier à Niamey, publiées par le site Actu Niger. Comment choisir son épouse ? C'est l'intitulé du nouvel ouvrage de l'écrivain nigérien Hassan Idi. Le choix d'une épouse vertueuse peut contribuer au bonheur du mari et des enfants, d'où la nécessité de toujours tenir compte des valeurs morales, explique Hassan Idi au micro de Michel Dieji.
La proportion de personnes qui ont souvent des attitudes socialement pas adaptées s'accroît et donc il fallait qu'il y ait un support écrit qui rappelle aux jeunes générations un certain nombre de valeurs, mais aussi un ouvrage qui rend un témoignage vivant aux femmes pour ce rôle important qu'elles jouent dans l'éducation des jeunes, mais aussi dans l'éducation des adultes, parce que quand on est dans un couple, chacun a la responsabilité d'aider l'autre. Alors, les qualités, elles sont nombreuses. Je sais que dans la société traditionnelle, le choix de l'épouse n'est pas laissé au candidat lui-même. C'est toujours les parents qui ont l'expérience, qui connaissent la structure de la société, qui font le choix. Mais aujourd'hui, les circonstances de la vie font que les jeunes, souvent, pratiquement, je vais dire les yeux fermés, ils choisissent eux-mêmes. Et souvent, c'est après coup qu'on se rend compte que le choix n'est pas le meilleur. Souvent, avec des enfants, puis on se rend compte que la vie conjugale est devenue pénible et que la voie de sortie est le divorce. Ça, c'est assez lamentable.
Studio Kalangu. Suivez les programmes du studio Kalangu à Dosso sur la radio FRA
92 MHz,
à Birningaouri sur la radio Marhaba
95.1 MHz,
à Dogandouchi sur la radio Dalol
92.8 MHz,
à Maradi sur la radio Garkwa
107 MHz,
à Mayayi sur la radio Anouri
99 MHz,
à Dakoro sur la radio Mouria Dakoro
99 MHz.
Studio Kalangu.
Place à présent à la partie magazine de cette édition à Arlette, région d'Agadez. Les femmes sont réunies en fédération composée d'unions et de groupements féminins pour générer des revenus. Elles s'impliquent dans des activités communautaires telles que la salubrité. Alassane Kouzi Mahamadou s'est entretenu avec Mme Chami Ahmed, présidente de la fédération de ces femmes.
L'autonomisation de la femme prend forme dans la ville d'Arlit avec des fédérations comme Matandaga créées il y a 6 ans. Objectif, rendre les femmes économiquement autonomes et aussi contribuer aux dépenses du foyer. Madame Chami Ahmed, présidente de la fédération Matandaga.
Nous organisons des séances de salubrité. Nous décidons d'un endroit que nous allons balayer. Par exemple, nous choisissons un collège ou n'importe quel endroit et nous nous donnons les moyens de le faire. Nous menons également des activités génératrices de revenus au niveau de notre siège. Nous faisons du savon liquide et du savon solide comme la Vibelle, la teinture, des détergents, etc. Il y a d'autres femmes qui font l'embauche. Certaines tissent des objets d'art, sans oublier l'extraction d'huile d'arachide. Bref, nous menons plusieurs activités.
Avez-vous reçu des formations pour toutes ces activités?
Nous avons été formés bien avant le démarrage de ces activités.
Peut-on dire aujourd'hui que les femmes d'Alit n'ont plus de problème d'argent? Plus que le mari ou un tiers leur en donne.
Je peux dire que les femmes n'ont pas de problème d'argent. Cependant, la femme, quelle qu'en soit l'activité qu'elle mène, elle aura besoin de soutien financier. Parce que nous, Matandaga, nous ne disposons pas d'argent dans notre caisse, nous permettant de subvenir à nos besoins, mais nous nous soutenons mutuellement.
Quel est le pourcentage des femmes qui ont compris et se sont engagées dans ces activités?
Nous avons 60% des femmes qui mènent des activités génératrices de revenus. Actuellement, vous m'avez trouvé en pleine activité. J'ai 3 congélateurs à mon actif avec lesquels je fais du commerce. Et c'est avec les revenus issus de ce commerce que j'arrive à subvenir à mes besoins. J'invite les autres femmes à nous emboîter le pas, parce que nous n'attendons pas nos maris pour subvenir à nos besoins. Il arrive qu'eux-mêmes ne disposent pas d'argent. C'est dans cette optique que nous menons ces activités génératrices de revenus en vue de subvenir à nos besoins, ceux de nos enfants et de prendre en charge certaines dépenses de nos familles. Nous ne voulons pas que nos enfants tendent la main à quelqu'un. Nous lançons un appel aux femmes qui continuent à croiser les bras et à ne rien faire de s'inspirer de notre exemple. Dans la même lancée, nous souhaitons que les maris accordent l'autorisation à leurs femmes pour faire du commerce. Parce que pour faire du commerce, la femme n'a pas besoin d'aller ailleurs, c'est dans son foyer qu'elle mène son petit métier.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous serez en compagnie de Rahilatou Soumana et ses invités dans le forum de la presse. Bonne réception.
Studio Kalangu à Gaya sur la radio Fara 90.3 MHz, à Tessawa sur la radio Termamoa 97.5 MHz, à Birinkoni sur la radio Nia 97.5 MHz, à Beleyara sur la radio Dalol 96 MHz. Studio Kalangu.